Balado Gazette, la plateforme de diffusion de création radiophonique vous propose Culture 5. Bernard Laurent, c'est à vous.
Bonjour à tous et à toutes. Un menu copieux aujourd'hui à la table de Culture 5. Nous aurons en entrée la déclaration d'un personnage bien encombrant, déclaration recueillie par Édouard Jouan et que je me permettrai de vous lire. Ensuite, ce sera le tour de Jean-François Rechner qui, en 3 minutes, nous présentera ses vérités alternatives. Nous continuerons avec « Ceci tuera cela », une chronique bien mystérieuse d'Hervé Richoux. Et nous terminerons en ouvrant la grille de lecture de Dominique Scandella, qui nous fera découvrir Arthur Young, un agronome anglais et francophile de la fin du XVIIIe siècle. Bon appétit, bonne écoute, c'est parti. Oui, je le reconnais, la soudaine et inattendue célébrité dont je suis l'objet me fait énormément plaisir. Depuis plus de 2 ans, j'ai ma photo dans les journaux, en pleine page, à la une, s'il vous plaît. Tout rond, je flamboie, je bourgeonne de pustules rouges, vertes ou bleues, une vraie mine flottante. Démasqué, me direz-vous, que nenni, bien malin, qui me reconnaîtra dans les allées de la grande surface, chez le boucher, le boulanger, mais aussi dans les bibliothèques où j'apprends plein de choses sur ces humains qui ne savent plus où donner du savon, du gel désinfectant ou du vinaigre blanc. Tous masqués maintenant, encapuchonnés, le regard fuyant, mais l'œil aux aguets, ils se déguisent pour ne pas être reconnus. Ridicule et pas du plus bel effet. Mardi gras aujourd'hui ou Halloween demain, ils ont encore le temps d'améliorer leur camouflage. Moi, ça ne me tracasse pas. J'avance tranquillement à mon allure. Je voyage gratis, nourri, logé. Pas de quoi me plaindre. Je reconnais causer quelques dégâts, mais c'est dans ma nature de coronavirus. C'est plus fort que moi, il faut que je m'introduise partout où il ne faudrait pas. Au début, on se moquait de moi parce que j'étais tout petit, insignifiant, microscopique. On découvre maintenant que je suis un minuscule géant, un incommensurable danger pour l'humanité tout entière qui ne sait plus où donner de la seringue pour tenter de me contrôler. Mes variants sèment la perturbation dans tous les labos. Je progresse un peu partout, mais surtout dans les zones qui n'ont pas pu se procurer la précieuse potion. Curieusement, dans les pays qui ont les moyens de se l'offrir, je reçois l'aide inattendue d'opposants à la vaccination qui manifestent contre ce qu'ils considèrent comme une atteinte à leur liberté. Je vous avoue que je ne m'attendais pas à recevoir un tel soutien, mais bon, autant en profiter. Je vais être franc avec vous, le résultat obtenu dépasse très largement mes ambitions premières. Comme tout être vivant, je souhaitais seulement exister et vivre la vie ordinaire d'un virus normal. Je me suis retrouvé dans des conditions de développement exceptionnelles, dans un tel déséquilibre environnemental que ça m'a ouvert des espaces de liberté inespérés. Croyez-moi, je ne demande pas mieux que de retrouver un développement raisonnable, mais encore faudrait-il qu'on m'en donne la possibilité, en réactivant, par exemple, le respect de la biodiversité, trop négligée par des humains trop soucieux d'un profit immédiat. D'ailleurs, j'entends déjà une autre petite musique. Ici et là, on suggère que je pourrais être utile et même providentiel pour changer ce monde qui bat de l'aile. Après mon passage, on envisagerait, paraît-il, de relocaliser les entreprises pour les produits de première nécessité et ainsi donner du boulot à tout le monde. On donnerait des moyens substantiels aux services publics qui font la preuve qu'ils sont les seuls à tenir le coup en cas de catastrophe sanitaire. On entrerait dans un monde plus solidaire, plus préoccupé de tempérance que de grosses bouffes dispendieuses, de dépenses inconsidérées, de comportements suicidaires envers la nature et la planète tout entière. Vous avez l'habitude de dire qu'à quelque chose, malheur est bon. Alors, une question. Mon intrusion serait-elle aussi néfaste qu'on veut bien le dire ? À quand ma statue rougeoyante sur les places publiques, au Covid-19, la patrie reconnaissante ? Oui, En attendant, vous en bavez et commencez à trouver la comédie un peu longue, mais rassurez-vous, j'ai aussi compris qu'une croissance inconsidérée pouvait entraîner des dégâts irréversibles. Alors j'envisage, dans les mois à venir, une décroissance salutaire. Parole de Covid. Post-scriptum. Je ne sais pas qui m'a affublé d'un nom pareil. Covid. En creusant un peu, on aurait pu m'appeler Vidocq. Vous savez, ce voyou, bandit, aventurier, délinquant qui sévissait sous Napoléon III et qui, sorti du bagne où il purgeait sa peine, fut d'abord indicateur de police avant d'être nommé chef de la brigade de sûreté de la préfecture de police de Paris. Un parcours hors du commun, pas loin d'être analogue au mien, non ? Cause I love you, parce que je vous aime, de Carla et Rufus Thomas. Un morceau enregistré au célèbre studio Stax à Memphis, Tennessee, dans les années 60. Et maintenant, capsule de jazz avec Johan Lefebvre.
Bonjour Bernard. Gershwin. Compositeur américain qui a toujours travaillé autour de la musique classique, mais aussi de Broadway, le quartier des comédies musicales à New York.
Voilà.
Ah ouais. Voilà. Ouais. Gershwin, bon, je ne sais pas moi quelle part il avait de jazz dans sa musique classique. Parce qu'on était déjà à la marge de la musique classique, comme on l'entend, si tu veux. Il y avait déjà, quand on écoute Un Américain à Paris, quand on écoute
Rhapsody in Blue.
Bah oui, Rhapsody in Blue.
Alors c'est déjà du jazz. Enfin,
c'est déjà
donc voilà,
avoir emmené la musique classique presque aux portes du jazz. Il écrit en 1935, 2 ans avant sa mort, une œuvre, Porgy and Bess, racontant la vie des Noirs en Caroline du Sud. It ain't necessarily so. It ain't necessarily so. Il y a eu un film réalisé par Otto Preminger et avec le grand acteur, comédien, entertainer, Monsieur Sammy Davis Jr., qui a repris totalement l'histoire qu'avait écrit George Gershwin au cinéma. He killed big Goliath who lay down and died. Little David was small, but oh my. Dans le même temps, dans les mêmes années, 58 et 59, 2 disques sortent autour de Porgy and Bess. Le premier disque est un disque où les artistes principaux sont Louis Armstrong et Ella Fitzgerald, un disque produit par le grand producteur Norman Granz, qui lui-même produisait énormément le jazz à l'époque. On peut se rappeler de Jazz at the Philharmonie, il réunissait les grands jazzmen de l'époque pour faire des grands concerts dans les théâtres new-yorkais. Et puis, 2 autres personnages dont on a déjà parlé dans une capsule précédente, Miles Davis, et puis évidemment son collègue Gil Evans, qui pour la deuxième fois, la dernière fois on a parlé de leur 3e collaboration, Sketches of Spain, vous pourrez écouter la capsule précédente. Là c'est leur 2e collaboration où ils s'emparent tous les deux aussi de Porgy and Bess et ils en font eux aussi une version. Beaucoup de jazzmen se sont emparés de Porgy and Bess et de quelques morceaux, puisque beaucoup de mélodies. Mais dans les années 80, le grand tromboniste arrangeur canadien Rob McConnell en fait une 3e version. Et ce que je vous propose, c'est qu'on ne va pas aller plus loin aujourd'hui dans le développement de ces 3 versions, mais dans une capsule suivante, on vous parlera uniquement des arrangements et de comment ces 3 grandes figures du jazz se sont inspirées de Porgy and Bess pour en faire des albums.
Merci beaucoup, Johan. On a hâte d'être à la prochaine fois.
Merci, Bernard, et à très bientôt.
À bientôt, c'est-à-dire à la semaine prochaine. Un autre univers maintenant, celui de Jean-François Rechner.
Les vérités alternatives. Ce n'est pas ce qu'on fait qui compte, c'est l'histoire. Nous chantait Yves Duteil matin et soir. Cet aphorisme semblant saugrenu fut illustré par bien des gens connus. Au hasard, prenons quelques exemples. Exhaustive, la liste serait trop ample. César, ses exploits dans la guerre des Gaules, dont maintenant tout le monde rigole, lui servirent à gagner le pouvoir. Puis, passer le Rubicon à l'asseoir. Bonaparte, même s'il s'en vanta, jamais ne franchit le pont d'Arcole à la tête de ses fiers soldats. Au fait, inventé pour sa gloriole, peint par le célèbre peintre Gros pour le faire passer pour un héros. Inventeur de l'école, Charlemagne, roi de France, ou plutôt d'Allemagne, comment, lui, pensant inutile d'écrire, eût-il voulu un peuple sachant lire ? Cicéron, philippique, catilinaire, brillante plaidoirie écrite dont il s'attribua le mérite, jamais prononcé, imaginaire. Remontons plus loin. La préhistoire. Orgueil des peuples celtes, menhirs, dolmens, bien avant eux parsemaient le domaine, de loin déjà on pouvait les voir. L'an de grâce 1515, Marignan, voulant qu'on le sache vaillant, François Ier travestit en victoire ce qui fut défaite et déboire. Malgré ce qu'écrivirent les historiens, Suisse vaincu, vainqueur, Italien. Après cette effroyable hécatombe, beaucoup de tués n'eurent pas de tombe. Jeanne d'Arc fut autant une bergère que la chèvre qui nourrit Jupiter. Notre héroïne guerrière ne naquit pas roturière. Après la Seconde Guerre mondiale, résistants de la 25e heure, nombreux pour recevoir des honneurs, s'attribuèrent de façon déloyale des actions parfois bien réelles commises par d'autres vrais rebelles. Accoudés au bar, dans les bistrots, nombreux disent, vidant leurs verres au moment où le regard se perd, qu'ils vécurent en véritables héros, soit sportifs de très haut niveau, en tout cas pas en peuple de veau, soit intrépides militaires sans qui on aurait, pourquoi le taire, perdu nombreuses batailles finales ou épreuves internationales. Ces gens ne sont pas des menteurs, non, simplement des rêveurs. Héros de guerre n'ayant pas eu lieu, humains se voulant demi-dieu, entre réalité, invention, chimère, vraie vie et fiction, quelle différence entre un fait rêvé et une réalité du passé, entre un songe ou cauchemar et un événement de l'histoire. Abreuvé dès l'école primaire d'épisodes imaginaires, nommés « mémoire collective », nourris de vérités alternatives, ils n'ont pas d'outils permettant de distinguer réel déprimant d'artifices les valorisant. Ça les aide à vivre, c'est suffisant.
Merci Jean-François. C'est vrai qu'à une époque où les vérités historiques, les faits historiques sont quelque peu manipulés, merci pour ta chronique. Arthur H. a sorti en septembre dernier un mini-album intitulé « Mort prématurée d'un chanteur populaire dans la force de l'âge ». Il a publié récemment un extrait de ce mini-album, un extrait intitulé « Nancy », accompagné d'un clip absolument magnifique. On y retrouve Caroline Carlson, bientôt octogénaire. Caroline Carlson, la chorégraphe étoile de la danse contemporaine, s'est à couper le souffle.
Nancy, si tu savais comme la mer est belle ce soir, quand la lune s'est levée, j'ai cru t'apercevoir sur le sentier. L'étoile filante s'est sauvée hors de tout regard. Les yeux fermés, j'ai brodé les fils d'or de ton corps. La nuit a divulgué tes audaces dissimulées. La nuit a désarmé mes rêves les mieux gardés. Nancy, si tu savais comme la mer est belle ce soir, quand la lune s'est levée, j'ai cru t'apercevoir au loin danser. Nancy, c'est lent, sinon Nancy, maintenant c'est seul, c'est lent. C'est lent, c'est non. Non, c'est. Tu as déjà mis ta robe blanche et ton visage resplendit, allongé comme évanoui. J'imagine que tu souris. Comme dit Rimbaud, à peu près, l'éternité, quoi, est retrouvée. Oh, belle Arthur, le supplice est sûr, Nancy s'en est allée. Au loin danser. C'est lent, sinon, Nancy. Nancy, c'est lent. C'est lent, sinon, Nancy.
Peut-être faudrait-il maintenant lire le poème d'Arthur Rimbaud, Le cœur supplicié. Un poème ithyphalique, pioupiesque et abracadabrantesque. Mais on n'a pas le temps, et la chronique d'Hervé Richoux sera une bonne alternative.
Ceci tuera cela. Enfant, la baignoire qui avait remplacé le tube cher à Marcel Pagnol était utilisée surtout le samedi ou le dimanche. Les autres jours de la semaine, on se contentait d'une toilette de chat utilisant deux gants, l'un pour les parties nobles, qu'étaient le visage, les oreilles et le cou, l'autre pour les parties basses et les dessous de bras. Aujourd'hui, Dieu merci, ou plutôt merci le progrès et les publicités hygiéniques, télévisuelles et dermatologiques, la douche est quotidienne, équipée d'un thermostat. Ceci a tué cela. En classe, malgré l'usage du buvard, le stylo-plume tachait la blouse et le bout des doigts. La craie criait sur le tableau. Le chauffage à bois enfumait la salle parfois et les cheveux, pour éviter les poux, étaient coupés ras. Aujourd'hui, le web a chassé la toile d'araignée. Les souris dans la classe et les virus sont informatisés. Le tableau interactif et la maîtresse bien fatiguée. Ceci a tué cela. Hier, la foule criait « À mort le condamné !» Et la guillotine, assoiffée de sang, tombait parfois sur le cou d'un innocent qui avait été condamné à avoir la tête tranchée. Aujourd'hui, si la veuve n'est pas rouillée, c'est qu'elle est exposée dans un musée pour rappeler les crimes d'autrefois. Ceci a tué cela. Aujourd'hui, la Terre est soi-disant trop petite. L'Antarctique se réduit et pourtant l'eau se fait rare. L'urgence est climatique. Le profit est économique, le bonheur est statistique. Mais l'enfant qu'Aristide a bercé sur ses genoux s'étonnera, réfléchira et de simplicité se contentera. Sa source d'énergie sera la force des vagues et du vent, et le soleil mettra sa vie dans la lumière. De son voisin à l'étranger, il parlera la langue. La nature, il respectera, et de la religion, il n'aura ni le besoin, ni l'envie. Sur la dune où poussent les silènes, le pourpier et l'oya, il prendra le temps de regarder les gravelots s'amuser de la vague. Un spectacle unique et éternel devant ses yeux se jouera, et, Aristide le pressant, il l'espère, ceci tuera cela.
Sous les feuilles de chêne.
C'était à la Clairefontaine, une chanson créée au XVIIIe siècle, et c'était pour situer dans son époque la chronique de Dominique Scandella.
Arthur Young, né en 1741, était issu d'une famille de gentilshommes campagnards possédant des terres dans le Suffolk, une contrée agricole au nord-est de Londres. Quoiqu'il s'intéressât surtout à l'écriture, il reprit l'exploitation familiale. Il ne réussit que médiocrement dans cette entreprise, mais voyagea beaucoup pour étudier les pratiques agricoles et devint ainsi un agronome reconnu dans son pays. Entre 1787 et 1790, il entreprit 3 voyages d'études en France. À son retour, il publia une relation de ses voyages sous le titre « Travels in France ». Cet ouvrage, aussitôt traduit en français, connut un grand succès tant en Angleterre qu'en France. Le récit d'Arthur Young reste aujourd'hui une source documentaire précieuse pour les historiens, car le regard qu'il porte sur la France, et plus particulièrement sur ses campagnes, s'il est sans indulgence, est précis et documenté. Un observateur français contemporain de cette époque, immergé dans son milieu familier, ne verrait plus ou ne prendrait pas la peine de décrire ce qui saute aux yeux de notre auteur. Arthur Young est un observateur lucide et pragmatique. S'il est reçu à Versailles, dont il admire les fastes sans approuver pour autant la rigidité de son étiquette, s'il est ébloui par Paris, dont il apprécie la lumière et les beautés architecturales, il est par contre rebuté par le désordre et la saleté des rues. Des campagnes, qu'il parcourt inlassablement, il dresse un tableau en général peu flatteur. L'archaïsme domine, il y a trop de jachères, les exploitations sont trop petites, la misère est partout. En 1788, par exemple, pénétrant en Bretagne par Pontorson, il traverse Combourg, que François-René de Chateaubriand venait de quitter. Les pages où Chateaubriand parle de son enfance au château de Combourg entre son père et ses sœurs sont parmi les plus belles des mémoires d'outre-tombe. Voici cependant la description qu'en fait Arthur Young. Jusqu'à Combourg, le pays a un aspect sauvage. La culture n'y est pas plus avancée, du moins pour le savoir-faire, que chez les Hurons. les gens sont presque aussi sauvages que leur pays, et leur bourg de Combourg est l'une des localités les plus atrocement sales que l'on puisse voir. Des maisons de terre, pas de fenêtres, et un pavé si raboteux qu'il entrave les passants au lieu de les aider. Il y a un château, et qui est habité. Quel est ce monsieur de Chateaubriand, le propriétaire, qui a les nerfs assez solides pour vivre au milieu de tant de saleté et de pauvreté? Quoi qu'il en soit, malgré son manque d'indulgence envers ses habitants, Arthur Young aime la France. Il envisage même d'y acquérir une belle propriété dans le Bourbonnais. Mais c'est l'heure de la Révolution, à laquelle il assiste avec beaucoup d'intérêt. Il juge alors, même s'il considère les événements révolutionnaires avec une certaine bienveillance, qu'il serait tout de même un peu risqué pour un aristocrate anglais de s'installer en France dans cette période troublée. Il y a deux choses en France qui forcent l'admiration d'Arthur Young. La qualité des routes, qu'il trouve magnifiques, même si elles sont désertes de charrois et que n'y cheminent que des va-nu-pieds en haillons. En Angleterre, par comparaison, la voirie est déplorable, mais elle est encombrée d'un trafic commercial intense. Son autre sujet de louange est Olivier de Serres, dont il a lu le traité d'agronomie et dont il affirme que si l'agriculture française avait suivi ses préceptes, elle aurait fait sa révolution bien avant l'Angleterre. Mais qui donc était cet Olivier de Serres? Ce génie méconnu fera l'objet de ma prochaine chronique.
Merci Dominique pour cette grille de lecture. Merci également à Édouard, Johan, Hervé et Jean-François. Culture 5, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve dans une semaine ou quand vous voulez sur balado-gazette.fr. À ciao.